Le journal de l'économie avec François Geffrier.
Il est 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, trois géants industriels européens veulent créer un champion mondial de l'utilitaire électrique et Made in France. On saura bientôt si les vêtements qu'on achète sont plus ou moins polluants. Et puis on va tout comprendre au projet du gouvernement pour aider les paysans à trouver des terres agricoles. Pour un grand projet électrique dans les poids lourds, il fallait bien trois poids lourds de l'industrie européenne. Renault, Volvo et CMA-CGM unissent leurs forces. Éric Mauban, il rêve de créer l'équivalent de Tesla dans le monde des utilitaires.
On a révolutionné la livraison urbaine avec la création d'un fourgon connecté 100% électrique. C'est l'ambition des trois groupes qui sont déjà au travail pour sortir en 2026. Un premier modèle, un peu plus gros qu'un Renault Kangoo. Chacun des trois participants à cette alliance mettra sur la table 300 millions d'euros d'ici à 2 ans afin de mener à bien ce projet. Pour Renault, ce segment de l'utilitaire est stratégique. Il représente 20% de son chiffre d'affaires et dégage une rentabilité bien supérieure à la moyenne. L'idée est de lancer un fourgon connecté afin d'optimiser les tournées dans ce type d'activité. Vous savez, le temps est précieux. Les batteries seront fabriquées en partie par Verkor qui construit sa Gigafactory à côté de Dunkerque. Reste maintenant un défi de taille, celui de mettre au point une architecture logicielle centralisée.
Éric Mauban, en direct. L'électrique qui franchit un cap en France. 1 million de voitures 100% électriques sont en circulation. Elles représentent une immatriculation sur 5. L'Association pour le développement de la mobilité électrique publie une étude Ipsos sur les possesseurs de ces voitures. Toutes les tranches d'âge s'y mettent. Idem pour les territoires. L'électrique se démocratise, semble-t-il, selon Clément Molison, le délégué général de l'AVER, cette association.
Le chiffre fort aujourd'hui, c'est le taux de satisfaction du véhicule électrique qui est 93%. Dans les raisons du passage à l'électrique, on retrouve un tiers des conducteurs qui l'ont fait pour des questions écologiques, environnementales, et un tiers qui l'ont fait pour des raisons économiques. On voit aussi que l'autonomie n'est plus un sujet pour eux. Il faut rappeler qu'aujourd'hui, la recharge publique, c'est 123 000 points de recharge. Ce premier maillage, il est là. Il va être complété, évidemment, dans les prochaines années. Et l'un des enjeux forts aujourd'hui, c'est la disponibilité, la qualité de service des infrastructures de recharge.
Dans ce monde où toute l'économie tente de se convertir à l'écologie, un nouvel outil, l'éco-balise, inspiré du Nutri-Score, vous savez, A, B, C, D, E, sur les emballages alimentaires. Là, avec l'éco-balise, il s'agirait de connaître l'impact environnemental des vêtements avec un score allant de 0, c'est le meilleur score, la meilleure note, jusqu'à l'infini. Alors pour aller au-delà, c'est Servane de Pastre qui nous explique.
Un t-shirt en lin fabriqué en France a un coût environnemental de 424 points, c'est 1000 points de moins qu'un t-shirt synthétique fabriqué en Asie. Pour arriver à ces résultats, les matières premières de ces t-shirts ont été renseignées dans EcoBalise, tout comme leur origine, leur transport ainsi que leur durée de vie. Plus le score donné par le calculateur est élevé, plus le vêtement a un impact sur la planète. L'objectif, plus de transparence et d'information à destination des marques dans un premier temps, puis des consommateurs. Pour Catherine Doriac, présidente de Fashion Revolution France, c'est un premier pas, mais il n'est pas suffisant.
Il ne faut pas minimiser les petits pas qui sont faits, mais ça ne suffit pas. Dans cette éco-balise, il manque un mot quand même, sociétal. Là, je vois, on parle de climat, de biodiversité, de santé, d'environnement et encore avec des pincettes. Et où sont les hommes au milieu de tout ça? On est quand même au 21e siècle. Il y a encore énormément de problématiques de travail d'enfants et de travail forcé, voire d'esclavage dans la chaîne textile. Ça, on n'en parle pas, on n'en parle jamais.
Pour l'instant, les marques ne sont pas obligées d'indiquer le coût environnemental de leurs vêtements, mais cela pourrait devenir obligatoire à partir de 2025, selon le ministère de la Transition écologique.
Servane de Pastre, l'inflation ralentit nettement en zone euro. 2,4% de hausse des prix sur un an en mars. Et ce, annoncé à une semaine, la prochaine réunion de la Banque Centrale Européenne, qui a donc la pression pour une éventuelle baisse de ses taux. La réunion suivante sera 2 mois plus tard, en juin. Elle n'a pas eu de problème de financement malgré les taux élevés. La start-up française Pigment devient la nouvelle licorne française. Elle est spécialisée dans la planification financière des entreprises. Les marchés financiers qui ont clôturé hier en très légère baisse pour le Dow Jones, -0,11%, Nasdaq +0,23%, CAC 40 +0,29%, 8153 points. Le Nikkei progresse d'un 40% en ce moment. L'euro vaut 1,0844. Le pétrole grimpe petit à petit. Le Brent est à 89,63 $ au dernier pointage. Le projet de loi d'orientation agricole va-t-il régler la question du foncier, c'est-à-dire le manque de terres disponibles pour les paysans, notamment ceux qui s'installent? Le sujet est traité via la création d'un nouveau dispositif que nous détaille Charles Ducrot.
6 candidats à l'installation sur 10 ne proviennent pas du monde agricole. C'est le cas de Léo Parel. Sans ce dispositif, il n'aurait pas pu s'installer. À 35 ans, il élève depuis 2019 des porcs et des moutons en plein air dans le Finistère.
C'est une reconversion professionnelle pour moi et ma compagne. L'acquisition des terres, dans notre cas, c'était pas possible. Et si on doit acheter beaucoup de foncier, ça passe automatiquement par de l'emprunt. L'opportunité du portage foncier, pour nous, ça a été de sécuriser notre installation en se concentrant uniquement sur le lancement de l'activité, l'outil de vente, etc.
Concrètement, l'agriculture n'a pas besoin de financer l'achat de ses terres, il les loue à un groupement d'acteurs privés ou publics. Mais la facilitation de ces portages fait craindre un effet pervers, une recherche de rentabilité provoquée par des investisseurs publics toujours plus nombreux. C'est ce que redoute l'association Terre de Liens, qui elle-même rachète des terres. Tanguy Martin, porte-parole.
Les gens qui devraient s'installer sur les terres sont des gens qui vont avoir des problèmes de revenus sur les premières années d'installation. Pour que les investisseurs aient un retour sur investissement, il va y avoir un problème et donc ça ne sera que les fermes les mieux dotées qui vont pouvoir accéder facilement à ces terres.
Avec cette mesure, le gouvernement espère doubler le nombre d'installations d'ici 2030, passant de 15 000 à 30 000.
Charles Ducrot, après des mois de calme plat, ça commence à frémir du côté du tourisme en France en provenance de Chine. 14 000 arrivées par avion prévu au deuxième trimestre 2024, plus 233% par rapport à la même période il y a un an. De bon augure pour les Jeux Olympiques. Pour autant, nous sommes encore loin d'un retour massif des touristes chinois qui sont vus comme un tourisme haut de gamme qui rapporte gros. Par rapport à 2019, l'année d'avant le Covid, le nombre de touristes chinois reste inférieur de 35%. Jean-François Rial est le PDG de Voyageurs du Monde.
Ça ne traduit pas un retour à la normale, ça traduit un retour progressif vers la normale qui est essentiellement lié au fait que la connectivité aérienne a fortement baissé entre la France et la Chine. Lorsque vous faites un vol entre la France et la Chine, vous ne pouvez plus pour Air France et les compagnies européennes survoler le territoire russe, ce que peuvent faire les compagnies chinoises. Du coup, la France bloque l'ouverture d'un nombre de lignes trop important pour les Chinois parce que ça favoriserait trop les compagnies chinoises au détriment des compagnies françaises. Il faut s'attendre, moi je dirais, à un retour normal du tourisme chinois en France en 2026. Ça reviendra forcément.
Jean-François Rial avec Éric Kuoche. Cela fait partie des nouvelles armes utilisées en Ukraine, les drones sous-marins qui sont kamikazes. Ils sont développés par une entreprise française, Exael, qui fait partie du groupe Gorgé. Alors ce drone est devenu indispensable à l'armée ukrainienne pour ouvrir des voies de navigation, notamment en mer Noire, largement minée par l'armée russe. Céline Kajoulis est allée à la Garde, près de Toulon, visiter l'usine qui les fabrique.
Il s'appelle Caster, avec un K comme kamikaze. C'est un tube d'environ 1 mètre de long, de 30 cm de diamètre, avec au bout une boîte ronde, comme un camembert, dans laquelle se trouve une caméra et une charge creuse. Il est le dernier maillon d'une chaîne qui débute avec un drone de surface, puis une série d'autres engins qui repèrent les mines. Caster est programmé pour aller sous l'eau et s'approcher au plus près de la mine. Fabrice Bosch, du programme Guerre des Mines d'Excel.
Il se met à proximité de la mine, à quelques dizaines de centimètres de la mine, et il va faire tourner ce camembert de manière à ce que cette charge creuse puisse être tirée, et donc ça va envoyer un jet de cuivre, en fait, à très forte vitesse et très forte température, pénétrer la paroi de la mine et déclencher la détonation de l'explosif qui est à l'intérieur de la mine.
Un drone qui coûte quelques centaines de milliers d'euros et qui est utilisé en mer Noire pour faire reculer la flotte russe. Grâce à ce système, on a réussi à ouvrir une route au départ d'Odessa pour faire circuler les bateaux transportant des céréales, des drones qui sont aussi utilisés par l'armée française en Méditerranée.
Céline Kajoulis, et puis on en parlait dans les titres de l'économie à 6h10, après le cacao, les cours du café aussi explosent, ceux du Robusta sont au plus haut depuis 2008, 3 662 $ la tonne. L'explication, c'est le Vietnam, premier exportateur au monde, où les conditions météorologiques ont entraîné une forte baisse de la production. Le Robusta est donc à 50% plus cher qu'il y a un an. Dans quelques instants, le 7-9 avec un bon café. Et David.